Je pense que vous m'entendrez mieux si j'enlève le masque. En tout cas, bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être parmi vous ce matin et de vous retrouver. Et je voudrais vous partager ce matin une réflexion un peu en continuité avec la louange de ce matin. Et comme vous pouvez le voir, c'est l'histoire d'un chef-d'œuvre. Et les premières questions qu'on peut se poser quand on parle d'un chef-d'œuvre, quels sont les éléments essentiels pour construire un chef-d'œuvre? Je ne sais pas si vous êtes déjà promené, certainement, promené dans des grandes villes où il y a des grands monuments ou des choses comme ça. Qu'est-ce qui est l'essence même d'un chef-d'œuvre? Les fondations, ouais. La grandeur de l'œuvre, ouais. Ouais. La beauté, ouais. L'auteur, effectivement, il faut un architecte. Et c'est bien tous ces éléments qui vont être essentiels à la construction d'un chef-d'œuvre. Tout d'abord, il y a des basiques, la connaissance, les règles. Vous pouvez avoir les plus belles idées du monde si vous ne savez pas les principes de base de la physique, de la mécanique. Vous ne pourrez rien construire. Il vous faut cette connaissance, il vous faut respecter quelques règles. Et évidemment, on l'a dit, vous l'avez dit, il faut une vision pour construire quelque chose de grand. Et de nombreux bâtiments en France et dans le monde sont issus de la vision d'une personne à construire quelque chose de grand, de différent, qui dépasse peut-être ce qui se faisait à l'époque de la construction. Et il faut cette inspiration. Tous les bâtiments ne sont pas inspirés divinement, mais malgré tout, certains reçoivent cette inspiration divine. Et dernier élément, sans quoi tout ça ne peut pas être possible, c'est la main-d'œuvre. Mais ce matin, je vais me concentrer sur deux choses. La première, c'est que, on l'a dit, il faut un architecte. Il faut que cet architecte, il ait cette inspiration, il ait cette vision pour mettre en place ce projet. Et la deuxième chose, c'est que cet architecte, il doit respecter les principes fondamentaux de la construction. Connaître toutes les règles, tous les principes de base de la construction et de l'architecture. Et en introduction à la réflexion, je voudrais vous parler d'un projet que beaucoup connaissent, en tout cas de nom. Peut-être que certains d'entre vous l'ont visité, mais si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, ça peut être intéressant. Cette construction, c'est la Sagrada Familia à Barcelone, c'est un projet qui date de maintenant 125 ans, inspiré par Gaudi, qui est mort avant la fin de la construction. Mais il avait toute une réflexion autour de dans ce projet-là. Alors, il y a déjà 18 tours, avec chaque tour une fonction particulière. Il y en a 12 pour les disciples, 4 pour les évangélistes, une pour Marie et la plus haute pour Jésus. Donc, on retrouve cette logique que les choses ne sont pas faites par hasard. Il y a bien, pour chaque chose, un but, une fonction. Et ce qui est, il avait quand même le respect de Dieu, on va dire ça comme ça, c'est que la tour la plus haute, elle ne dépasse pas le Montjuïc, qui est la colline qui est autour de Barcelone. Et la raison pour laquelle il ne l'a pas fait dépasser, c'est qu'il a dit « c'est pas possible qu'une construction humaine dépasse ce que Dieu a créé ». Il avait vraiment cette logique-là. Et puis, toutes les façades ont un thème. Il y a la façade de la nativité, la façade de la passion, et puis la façade de la gloire. Et donc, chacune a été construite différemment pour porter un message, pour que ceux qui viendraient dans cette cathédrale puissent lire une histoire. Et puis, le plus surprenant, finalement, et ce qui m'a le plus ébloui quand je l'ai visité, c'est l'intérieur. De l'extérieur, on n'a pas l'impression que c'est très lumineux, mais de l'intérieur, il y a des lumières incroyables, avec des luminosités différentes en fonction de si c'est l'est ou l'ouest, avec d'un côté des couleurs chaudes et de l'autre côté des couleurs froides. Et la construction intérieure de cette cathédrale, ben ça fait comme une forêt. C'est tous les piliers, quand on regarde au-dessus, ça ressemble à des arbres. Pour rappeler le côté Éden de la création. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable d'avoir pu penser à tout ça et de ben que ça rende ce résultat-là. Alors, en sachant que c'est pas lui qui l'a fini, mais c'est que des gens ont repris le projet et le mènent à terme. Et il devrait être fini dans quelques années. Alors, après, ce qui peut se passer, c'est que, on l'a vu, hein, pour construire, il faut ce projet, et on voit que Gaudi, il avait cette vision de la construction d'une cathédrale qui était pour honorer Dieu, pour rappeler qui il était. Et puis, on a dit aussi qu'il fallait respecter quelques principes fondamentaux, que sont la physique, que sont la mécanique, et qu'est-ce qui se passe quand on ne respecte pas tout à fait toutes les règles, ou en tout cas on ne les maîtrise pas bien? Eh bien, il arrive qu'on construise quelque chose, mais que c'est un peu tout biscornu. Ou alors, on connaît bien les principes, mais on a peut-être oublié un petit truc, et puis on a oublié que le sol, il n'était peut-être pas, ou on n'a pas regardé suffisamment. Et on se rend compte que le sol, il n'était pas assez solide pour la construction. Et du coup, ça penche un peu. Et puis après, il y a des fois où on n'y connaît rien du tout, et là, c'est la catastrophe. Et dans d'autres cas, comme pour Gaudi, on maîtrise parfaitement tous les principes de la mécanique et de la physique. Alors, si je vous pose la question de qu'est-ce que c'est ça ? Est-ce que vous savez me répondre ? Alors, la lumière n'est pas... Ah. Ouais. C'est la cathédrale à l'envers. Et en fait, il a construit, avant de construire et d'édifier ce bâtiment, il a fait une maquette pas à l'endroit pour montrer comme c'était beau, non ? Alors certainement qu'il l'a fait aussi, mais il a construit une cathédrale à l'envers avec tous des petits poids pour voir comment il fallait construire chaque pilier pour que les forces s'équilibrent parfaitement et que la cathédrale soit complètement, du moins, soit solide et qu'il n'y ait pas de choses, de points faibles. Alors, ça, c'est la cathédrale de la Sagrada Familia, mais il a construit une petite église qui est assez incroyable, qui ressemble un peu à la maison que je vous montrais tout à l'heure du numéro 10, où tous les pieds sont un peu de travers, mais il l'a construite exactement de la même manière que celle-là, la construisant à l'envers avec des petits points. Il maîtrisait tous les principes fondamentaux de la mécanique, de la physique, et il le mettait en pratique avant pour voir ce que ça donnait. Mais bon, ce matin, on est bien d'accord, je suis pas venu pour vous parler d'architecture, de bâtiment et tout ça. Je suis venu vous parler d'un chef-d'œuvre encore plus beau. Si je vous dis 160 000 kilomètres, 45 litres, 86 à 100 millions de neurones, 5 litres de sang, 640 muscles. Vous pensez à quoi ? Exactement, au corps humain. Alors, bon, j'ai mis une photo, mais je ne savais pas qu'on aurait un exemplaire en vrai ce matin. Mais il est incroyable, ce corps humain. Le fonctionnement dans les moindres détails, quand on y réfléchit, tous les jours, on ne se pose pas de questions. Le cœur fait son office, les reins travaillent, le foie aussi, la régénération de la peau se fait. La capacité de tous les cinq sens que nous avons. Alors, on en exploite qu'une partie en plus. Mais demander à un aveugle la capacité qu'il a à entendre ou à sentir. Et inversement, à un aveugle la capacité qu'il a dans le toucher. C'est incroyable. Et on se rend compte que de la merveille que nous sommes, quand ça pétouille un peu, hein, quand on commence à avoir mal aux genoux, quand le cœur bat un peu la chamade, qui se dérègle un peu, on se dit, purée, c'est quand même... c'est de l'horlogerie suisse, hein, on n'est pas loin, on peut se permettre ce parallèle, mais c'est mieux que de l'horlogerie suisse. Et ça, c'est pour la partie, quelque part, scientifique. Dieu, il connaît parfaitement tous les principes fondamentaux. Et il a tout fait un condensé dans l'homme et dans la nature de manière générale, mais dans l'homme en particulier. Parce qu'il y a aussi cette capacité à créer, à inventer, à réfléchir, à communiquer. C'est quand même fou quand on y pense. Et ben c'est un peu la suite. C'est qu'on trouve dans Genèse, Dieu créa l'homme à son image. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé, il trouva ça très bon. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'il a trouvé ça très bon. Rien à voir avec les constructions, hein. Quand on regarde la beauté de la création, quand on voit la complexité de l'être humain, et cet équilibre parfait entre toutes choses. La température idéale pour la Terre, même si on se plaint que des fois il fait trop chaud, qu'il fait trop froid, qu'il pleut trop, qu'il pleut pas assez. Mais malgré tout, il y a quand même un équilibre qui fait qu'on peut vivre dans cette atmosphère avec suffisamment d'oxygène, qu'on arrive... On peut voir la nature se régénérer au fil de après chaque saison, même si des fois ça se dérègle un peu, mais tout fonctionne parfaitement, tout a un équilibre. Alors, revenons sur Dieu créa l'homme à son image. C'est un sacré projet quand même, ça. On a vu, hein, mécaniquement, il n'y a pas de souci, mais ce projet, Dieu créa l'homme à son image. À savoir quoi ? Nous avons une valeur particulière. Nous avons une capacité à révéler Dieu. Et on le trouve dans les psaumes, avec un psaume du roi David. « Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature si merveilleuse. Je n'étais qu'une masse informe, mais tu me voyais et dans ton registre, se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. » Nous sommes dans la pensée de Dieu. Nous sommes un projet de Dieu. Nous sommes le projet de Dieu. Avec une dimension particulière par rapport à tout ce que nous pouvons voir autour de nous. Dieu, il a respecté un principe fondamental dans sa création. Pour moi, c'est l'amour. C'est cette dimension supplémentaire. J'avais, en lisant un livre de Bernard Werber, il avait dit ça, j'avais lu ça, le libre arbitre est le plus beau cadeau d'amour de Dieu. Le libre arbitre est le plus beau cadeau d'amour de Dieu. C'est vrai que c'est un beau cadeau que nous ne savons malheureusement pas toujours utiliser à bon escient. Et il me semble qu'il y a encore un plus beau cadeau d'amour, et on va y venir. Mais voilà, l'amour, et c'est aimer Dieu. Et on voit aussi que, juste dans le verset que je vais vous lire, dans 1 Jean 4, versets 9 à 10, « Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vraie vie par lui. Et l'amour consiste en ceci. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils afin que... » excusez-moi, je suis allé un peu trop vite. Ouais, je me disais, ça ne colle pas entre les... Excusez-moi. Ouais. Pardon. Il faut que je reprenne le fil. Aimer Dieu, c'est une réponse que Jésus fait à une personne qui vient le voir à la question du « Quel est le plus grand commandement ?» Jésus répond « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et aussi, tu dois aimer ton prochain. » Donc, aimer Dieu, c'est aimer soi-même et aimer les autres. Et il est dit aussi que, dans Genèse, on retrouve « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », et en parlant évidemment de la femme vis-à-vis de l'homme. Et aimer, c'est un désir naturel de l'homme. Ça fait partie du principe fondamental de la création. Et on le voit avec les bébés. À la naissance, ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin de protection. Et puis on voit ses joues toutes roses, cette peau toute douce, toute rebondie, qui ne demande qu'à recevoir des bisous. Et pourtant, à la naissance, les bébés, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ils renvoient rien du tout. Moi, mis à part dormir, manger, pleurer, ils n'apportent, j'allais dire, rien. Il n'y a pas d'échange. Ils ne sont beaux qu'à voir et ils sont là parce qu'on a envie de les aimer. Et ils nous apportent ça, cette capacité à pouvoir aimer. Et on voit aussi dans l'interaction entre les hommes, l'alchimie incroyable qu'il peut y avoir entre l'homme et la femme, entre les amis, ce désir de passer du temps ensemble, car on s'apprécie réciproquement, parce qu'on s'alimente avec la présence l'un de l'autre, on s'alimente de nos échanges, on s'alimente de l'affection qu'on a les uns pour les autres. Et évidemment, l'alchimie entre l'homme et la femme, cette relation qui parfois ne nécessite aucune parole, les gens se comprennent parce qu'ils ont passé du temps ensemble, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est un jardin secret qui a besoin d'être entretenu pour que cette relation profonde puisse exister et continuer à se développer. Et finalement, le dernier point, c'est ce besoin que nous avons d'être aimés, tous autant que nous sommes. On peut aimer les autres, mais on a besoin d'être reconnu. On a besoin d'être aimé par notre conjoint. On a besoin d'être apprécié par nos amis. On a besoin peut-être aussi d'avoir une certaine reconnaissance dans ce qu'on fait, dans notre travail, peut-être dans l'église, dans toutes les activités, peut-être qu'on recherche une certaine acceptation, être aimé. Et c'est là où, quelque part, même si on a tout ça, peut-être qu'il manque une dimension supplémentaire. Et je viens à ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est cette dimension supplémentaire liée à Dieu, avec le verset que je citais dans 1 Jean 4, verset 9 à 10. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vraie vie par lui. Et l'amour consiste en ceci: ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Avec le pardon de nos péchés, de nos fautes, nous pouvons nous approcher de lui. Nous sommes réconciliés avec lui, nous ne sommes plus sous les effets de la rébellion de l'homme envers son Créateur. Dieu t'aime grand comme ça. Et j'ai pas les bras assez grands, évidemment. Oui, un principe fondamental, l'amour. Alors, pour terminer, je voudrais vous parler d'une dernière construction que vous voyez à l'écran. C'est l'abbaye de Cluny, qui était la plus grande abbaye en Europe, dans le monde quelque part, juste avant que Saint-Pierre de Rome soit créé, mais Saint-Pierre de Rome ne la dépasse finalement que de 3 mètres. Il y a 5 siècles de différence dans le temps. Malheureusement, la Révolution est passée par là et a détruit une partie de cet édifice qui devait être magnifique, monumental. Et on voit à l'écran qu'il ne reste qu'une partie. Et donc, la partie en clair, c'est ce qui reste. Tout ce qui est en brun foncé a été détruit. Ben, voilà. Par contre, quand on va visiter, quand on est à Cluny et puis qu'on visite le site, on se dit, oh, ça devait être quand même incroyable comme construction, ça devait être intéressant, ça devait être beau à voir, ça devait être impressionnant. Et ben, peut-être qu'il en est de même dans nos vies. Nous pouvons être aimer les autres, mais si nous n'acceptons pas l'amour de Dieu, nous sommes comme ce bâtiment. Magnifique, mais amputé d'une partie de sa plus grande partie. Il y a malgré tout une différence de taille énorme. C'est que ce bâtiment, j'allais dire, il ne pourra jamais être reconstruit, car il faudrait détruire d'autres bâtiments qui ont pris leur place maintenant, récolter des fonds incroyables pour justement détruire, reconstruire, retrouver des plans. Ben, impossible. Par contre, il y a une bonne nouvelle pour nous. Il y a toujours la possibilité d'accepter l'amour de Dieu et de retrouver le potentiel maxi du chef-d'œuvre que nous sommes, du chef-d'œuvre que Dieu a en tête pour nous et qu'il a construit. La question est maintenant pour nous de savoir qu'est-ce que nous voulons faire et comment nous exploitons, comment nous nous mettons au service de Dieu pour que ces chefs-d'œuvre puissent prendre toute sa place, retrouver la magnificence qui lui est réservée. Amen.